Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Parole à propos. Mon nom est Jacques Pelletier, je suis le pasteur de l'Église réformée baptiste de la Capitale et je suis toujours en compagnie du pasteur Pascal Deneau de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Je vous salue, pasteur Pascal.
Bonjour Jacques, fait plaisir d'être avec vous pour une autre émission.
Le plaisir est pour moi aussi, bien sûr. Nous avons entamé, Pascal, une discussion lors de notre dernière émission sur la tragédie de Newtown. Mm. Donc, tout le monde est au courant, bien sûr, des événements, hein, alors que 27 personnes ont été tuées par un tireur fou, dont 20 enfants en bas âge. Et nous avons commencé à aborder tout le caractère extrêmement tragique de cette situation-là. Mmh. Mais on en est venu, et vous nous avez parlé un peu plus, la question de la responsabilité du tireur là-dedans. Et je pense qu'on a réussi à établir le fait que Dieu n'est pas l'auteur de ce péché-là, de ce crime-là. Hein? On va dire les mots tels qu'ils sont, là. On va dire le mot péché, crime, injustice. Cependant, je pense qu'on ne peut pas mettre de côté, hein, on peut pas passer à côté de la question que posent de nombreuses personnes, notamment, j'ai déjà fait référence un petit peu à cela, les athées, n'est-ce pas, ceux qui refusent de croire en l'existence d'un Dieu, à savoir que où était Dieu dans la situation, parce que s'il y a un Dieu, et surtout si on se réfère au Dieu de la Bible, donc créateur des cieux de la terre, un Dieu tout-puissant, n'est-ce pas, qui peut faire des miracles et tout cela, la question se pose, mais où était Dieu dans cette situation-là? Hein? La question, je pense qu'elle est tout à fait légitime, je pense que vous êtes d'accord avec moi, Pascal.
Mm-hmm. Et elle n'est pas posée que par les athées, je pense aussi. Souvent, les athées la posent un petit peu pour attaquer la foi, mais il y a des croyants ou des gens, on pourrait dire, sympathiques à la foi qui se questionnent. C'est une question qui est effectivement tout à fait légitime lorsqu'on voit de telles choses. Et bon, on fait l'équation. Dieu est bon, Dieu est tout-puissant. Pourquoi est-ce que le Dieu bon qui est capable d'empêcher ces choses-là d'arriver ne les empêche pas? Et ça amène bon des remises en question ou en tout cas de sérieux questionnements par rapport à la bonté de Dieu, à son existence, à ses plans. Et l'Écriture a des réponses à tout le moins surprenantes lorsqu'on ne les connaît pas, lorsque la première fois qu'on les entend à ces questions-là.
Effectivement, et j'aimerais vous lire une portion du livre du prophète Amos, le chapitre 4, verset 6, où le Seigneur s'adresse à son peuple et lui fait des reproches parce que son peuple, bien sûr, s'est détourné de lui, ne le cherche pas. Parce qu'on a vu, on a terminé l'émission, Pascal, en discutant sur le fait que Dieu n'est pas étranger aux circonstances, justement, et que à travers ces circonstances-là, Dieu veut nous interpeller, Dieu veut nous parler. Et que Dieu a un message pour nous, un message qui est grandiose, et on a parlé de l'Évangile bien sûr, mais que le fait est que justement, très très peu de gens portent oreille à ce message-là, ou même sont réceptifs à la voix de Dieu, hein, qui, encore une fois, se fait entendre de manière particulière par les Saintes Écritures, mais aussi par les circonstances de nos vies. Alors, je pense qu'on peut établir le fait que Dieu est souverain en toutes choses, Dieu règne, et donc il n'est pas étranger aux circonstances. Il n'est pas l'auteur du péché, c'est vraiment important de le dire, mais il n'est pas étranger aux circonstances. Et dans le livre du prophète Amos, il dit à son peuple, « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. » Un peu plus loin, il parle de la pluie aussi, de la sécheresse et tout cela. Et il refait le même reproche. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Donc, c'est Dieu qui dit, j'essaie de vous interpeller. J'essaie de vous dire quelque chose. J'essaie de capter votre attention de façon frappante, mais vous n'écoutez pas. Est-ce que c'est pas d'actualité, ça, Pascal?
Oui, c'est un message, je pense, qui est comme le reste de la parole de Dieu, qui demeure au présent, continue, qui sera jamais dépassé. Dieu intervient dans l'histoire par sa providence et il fait arriver des choses tragiques, des ouragans, des tsunamis et des choses même qui impliquent la responsabilité humaine comme cette tuerie pour nous parler, pour nous ramener à lui. Je me souviens quand on a discuté un petit peu avant l'enregistrement, vous avez fait référence à un texte dans l'évangile de Luc. La référence exacte, c'était quoi?
C'est Luc chapitre 13, les versets 1 à 5.
13, 1 à 5. Je vais le lire si vous me le permettez, à moins que
Oui,
vous
allez-y,
vouliez le
Pascal.
faire intervenir plus tard, là, mais je pense que le moment serait indiqué. Luc 13, 1 à 5, qui dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Autrement dit, Pilate avait fait tuer, avait fait oxyre ces Galiléens alors qu'ils offraient un sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. On lit ça, on dit, c'est quand même une façon assez claire de répondre à un questionnement humain devant des tragédies. Et je trouve le premier exemple de Jésus intéressant parce que on parle pas d'un accident comme la tour qui est tombée ou comme des catastrophes naturelles, mais là on parle bien d'un homme, un gouverneur romain, donc qui volontairement a fait périr des gens. Et la façon que les gens de l'Antiquité à l'époque voyaient cela, c'était de croire, ben, s'ils ont péri ainsi, c'est parce qu'ils le méritaient. Alors, il n'y a personne qui est porté à dire ça lorsqu'on regarde de jeunes enfants, à dire ils ont péri ainsi parce qu'ils le méritaient, hein, c'est tout le contraire. Mais la réponse du Seigneur, c'est si on ne se repent pas, nous allons tous périr de même.
Alors, Pascal, pourquoi le Seigneur dit-il une telle chose? Pourquoi est-ce que les hommes sont appelés à périr?
C'est la même réponse que les chrétiens proclament depuis des millénaires et que le cœur de l'homme endurci ne veut pas entendre, c'est le péché. Les hommes périssent en raison du péché et l'appel que Dieu lance à l'homme, il lui rappelle dans toutes ses tragédies, dans toutes ses circonstances qui arrivent, que ils vont périr également, que la mort est assurée. Une chose qui est certaine lorsqu'on vient au monde, c'est qu'on va mourir. On est déjà en processus de mourir à la naissance. Et la seule façon d'éviter de périr éternellement loin de la face de Dieu, d'aller en enfer, finalement, c'est de se repentir. C'est de reconnaître devant Dieu que nous sommes des pécheurs, que nous sommes coupables de nos fautes et que nous méritons sa condamnation. Et c'est d'implorer sa miséricorde et son pardon qui nous sont offerts gratuitement en Jésus-Christ.
Effectivement, Pascal. Donc, parce que le pécheur, c'est quelqu'un qui s'est rebellé contre son Dieu, hein, qui est infiniment juste, qui s'est rebellé contre le règne de Dieu, contre sa loi, contre ses commandements, et donc qui, selon les Écritures, mérite le châtiment, justement. Et la Bible nous dit que le règne de la mort est universel, justement, parce que c'est justement une condamnation qui est tombée sur l'humanité en raison du péché, et que le monde lui-même a été livré à la vanité. En fait, c'est un monde qui connaît les effets de la chute, hein, qui ont pris place dans le cœur de l'homme, mais les effets de la chute sont élargis, sont beaucoup plus grands, ils se manifestent dans notre univers, justement, notamment par les catastrophes naturelles et tout cela. Et là, on touche un autre point, Pascal, à savoir que effectivement, lorsque Pilate a fait tuer des gens, bien sûr, il est responsable de son crime, mais lorsque, bien sûr, bon, la question de la tour, on pourrait dire, bien sûr, il y a les concepteurs de la tour, peut-être, qui sont responsables de n'avoir pas construit un édifice solide et tout cela, mais lorsque vous avez parlé du tsunami, effectivement, on tombe dans quelque chose d'un peu plus, une autre catégorie d'événements, et là, encore une fois, qu'on le veuille ou non, on est obligé de voir la main de Dieu dans les circonstances.
Oui. Et le point qu'on veut souligner, c'est finalement que dans ces tragédies, Dieu parle. Dieu a un message. Son
Voilà.
message, c'est repentez-vous. Mais une question éthique qui touche à l'éthique, si on veut, divine, c'est Dieu en est-il l'auteur? Dieu fait-il arriver ces choses? Vous avez lu tantôt le texte d'Amos, donc il dit littéralement, Dieu dit, j'ai fait arriver un malheur dans telle ville et pas dans telle autre ville. Donc c'est moi qui vous envoie. Pensez pas que c'est pas moi, c'est moi. Dieu clame la responsabilité. Devant la tragédie Newton, j'ai pas entendu de beaucoup de chrétiens dire, écoutez, c'est Dieu qui est l'auteur, ben, qui est responsable. Comment donc expliquer? Je pense qu'il faut vraiment donner plus d'explications pour aller avec ce que l'Écriture nous dit, que Dieu se sert de ces tragédies pour parler, mais non seulement il s'en sert comme si c'est seulement des accidents de parcours qui arrivent, mais quelque part elles font partie de son plan, de son décret. Et il faut parler avec beaucoup de prudence pour expliquer ces questions-là, mais je sais que vous avez toute la sagesse pour le faire.
Oui, ben je ne suis pas certain d'avoir toute la sagesse pour le faire, mais effectivement, c'est qu'on est en train de dire que le Dieu de la Bible est un Dieu souverain. Qui règne sur toutes choses. Et je pense que ce sur quoi on doit mettre l'accent, justement, Pascal, c'est le fait que Dieu veut parler à nos cœurs. Dieu veut parler au cœur des hommes. Et pour ce faire, il emploie parfois des moyens extrêmement forts. Encore une fois, je sais que c'est un peu difficile à comprendre parce que Dieu, encore une fois, Dieu n'est pas un sadique. Dieu n'est pas un tueur, OK? Et le tueur, la personne qui a commis ces meurtres est pleinement responsable, mais on ne peut pas évacuer le fait que Dieu aurait pu empêcher cette personne-là d'agir. Donc, Dieu veut parler. La deuxième chose, bien sûr, ce n'est pas parce que les gens de Newton ou autres sont plus pécheurs que d'autres. C'est tout simplement, effectivement, qu'il y a une situation universelle, et on pourrait aller de façon un peu plus locale ou nationale, à savoir que un pays comme les États-Unis, tout comme le Canada, bien sûr, a reçu beaucoup de lumière, mais on est en train d'évacuer cette lumière-là. La lumière de l'Évangile, bien sûr, on fait fi de Dieu. Hein? Parce qu'une autre question qui se pose, c'est les gens vont dire, où était Dieu là-dedans? Mais la question, c'est, où est-ce que je suis, moi, face à Dieu? C'est-à-dire qu'on fait fi de Dieu, on l'abandonne, on fait fi de ses commandements, de la crainte de Dieu. L'Église est devenue une chose qui est complètement étrangère, et sa parole, bien sûr, n'a aucun intérêt, ne trouve aucun intérêt dans beaucoup de cœurs. Et lorsque arrive de telles choses, et là c'est drôle tout à coup parce qu'on fait référence à Dieu tout à coup. Et donc on voit bien ici, on voit bien qu'il y a un lien ici. Dieu veut interpeller souverainement, puissamment. Effectivement, les circonstances ne sont pas dues au hasard. Dieu règne parfaitement. OK? Et donc, Dieu veut nous parler puissamment par ces événements-là. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire, Pascal? Je vous l'avais déjà abordé, mais n'est-ce pas? Il veut parler de notre cœur. Parce que là, on a dit, bien sûr, que le tireur est responsable. On est tout à fait d'accord avec cela. Mais en fait, nous sommes tous pécheurs comme ce tireur-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Pascal, pour dire que dans les mêmes circonstances, on aurait pu faire la même chose?
Ben, c'est dur à dire là, comme ça. Là,
on aurait pu faire, je ne vais pas dire on aurait fait, mais on aurait pu.
Non, c'est ça. Ben, je pense que potentiellement, tout être humain est capable des pires atrocités. Ça ne veut pas dire qu'il va les commettre, mais notre cœur est méchant, est profondément méchant. Et on le réalise pas pleinement parce que ça fait partie de la méchanceté de notre cœur de se mentir à soi-même et d'embellir nos propres méchancetés à nos yeux. Mais oui, je crois tout à fait que nous portons en nous un cœur meurtrier qui le demeure jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu et qu'il soit régénéré.
Donc, est-ce qu'on est d'accord, Pascal, pour dire que si... donc bien sûr, il faut que cet homme-là soit jugé, d'accord? Je pense que c'est une responsabilité même au niveau du peuple américain, n'est-ce pas, que de juger un tel homme pour les crimes qu'il a commis.
Ben là, ça va être dur maintenant qu'il est mort, là, mais...
Ah oui, il est mort, je m'excuse, effectivement. Mais quand même qu'on reconnaît... Hein, que,
oui, oui, mais il y a un jugement moral à porter.
Il y a un jugement moral à porter. Et s'il était vivant, il faudrait bien sûr qu'il soit jugé comme il se doit. Hein, qu'il subisse une peine pour cela. Mais l'idée, c'est que dans les Écritures, de tels jugements ont pour but aussi devrait conduire ceux, donc qui vont juger l'individu, à réaliser à quel point eux-mêmes sont portés vers le péché et que sans la grâce de Dieu, eux-mêmes peuvent tomber dans les pires abominations.
Absolument. C'est un des effets que produit l'exercice de la justice par le magistrat, hein, c'est de nous amener à craindre la justice, craindre l'autorité, et puis de prendre conscience aussi qu'il y a une justice ultime à laquelle personne ne peut échapper. Il y a quelque chose de frustrant avec le fait que cet homme s'est enlevé la vie, c'est que il n'aura pas à faire face à la justice, il n'aura pas à rendre compte de ses actes, il ne sera pas puni pour ce qu'il a fait. Mais si on ne voit rien au-delà de cette vie, au-delà de la mort, bien on dit c'est désespéré et l'injustice a triomphé. Mais l'Écriture nous dit que non, il y a la justice de Dieu va triompher parce que cet homme va faire face à Dieu et va avoir à répondre de ses actes. Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant parce que Dieu est un feu dévorant prêt à consumer les rebelles, à ceux qui sont des impies, qui s'opposent à sa justice et qui ne se repentent pas.
Vous venez de toucher un point très important, Pascal, à savoir effectivement que dans ce monde, il y a énormément d'injustice et souvent, nous restons sur notre faim, justement, en ce qui concerne le jugement de ceux qui commettent le mal. Mais la Bible nous rassure et affirme, justement, qu'il y aura un grand jugement, un jugement dernier, où tous les hommes devront rendre compte devant Dieu.
Le jugement, en fait, de Dieu, hein, a eu en deux temps. Le jugement dernier a déjà eu lieu au calvaire. Christ a été jugé et tous ceux qui sont en lui n'auront point à être jugés. C'était le jugement dernier qui a eu lieu avant la fin du monde. Et il y aura un autre un jugement final où la justice de Dieu va une fois de plus s'exprimer pour tous ceux qui ne sont pas en Christ et qui seront condamnés.
Oui, et donc on vient de toucher le cœur hein, de notre message, Pasteur Pascal, à savoir encore une fois qu'on le dit dans notre dernière émission, que dans toutes ces circonstances, Dieu veut nous interpeller. Il veut interpeller les cœurs des Québécois, il veut interpeller les cœurs des Canadiens, des Américains à nouveau, hein, et afin qu'on se tourne vers lui et qu'on puisse entendre sa voix, sa parole, bien sûr, qui nous est révélée par les Saintes Écritures. Et ce que Dieu veut nous rappeler, c'est que nous sommes pécheurs, que nous sommes par nous-mêmes incapables de faire le bien comme il se doit. Même si certains d'entre nous, par sa grâce, bien sûr, ont reçu un peu plus d'éducation, sont un peu plus fonctionnels que d'autres, mais encore une fois, on ne peut pas excuser les crimes, hein, il faut les juger, ces crimes-là, dans la société, mais on doit se souvenir que, placés dans des circonstances différentes qui sont les nôtres, nous pourrions aussi commettre des crimes extrêmement graves. Mmh. Et en fait, devant Dieu, bien sûr qu'il y a il y a un niveau, bien sûr, de gravité là des fautes qui sont commises, mais en fait tous les péchés sont d'une très très grande gravité devant la face de Dieu. Mmh. Le fait de faire fi de Dieu, de blasphémer son nom, de le prendre en vain, de mentir, de frauder, de voler, hein, de ne pas respecter les lois du mariage et tout cela, eh bien ça fait de nous des pécheurs justement. Mmh. Et en ce sens, personne n'est meilleur que cet homme qui a tiré. OK, nous sommes tous pécheurs devant la face de Dieu et je pense que à travers les circonstances pénibles ce Dieu d'amour et de grâce qui n'était pas étranger qui n'est pas étranger aux circonstances et qui encore une fois pleure avec les parents, je n'ai aucun doute de cela, hein, essaie de nous appeler. Je pense qu'il veut nous interpeller comme Jésus qui arrive à la ville de Jérusalem, hein, juste devant la ville de Jérusalem et il sait qu'il va être crucifié, hein, mais il se met à pleurer. Il dit, Jérusalem, j'ai tellement voulu rassembler tes habitants. C'était sincère. Hein? Et il a essayé de parler, il a fait des miracles, il y a eu des signes, mais Dieu ne parle pas toujours par des miracles, il parle par d'autres signes aussi, comme des tragédies, justement, des événements extrêmement interpellants. Et ce que Dieu est en train de nous dire, c'est venez à moi, revenez vers moi avant qu'il soit trop tard.
Tout à fait. Pasteur Pelletier, il reste à peu près une dizaine de minutes à notre émission. Je voudrais pas prendre le lead, mais il y a une question moi qui sur laquelle on a ouvert et que j'aimerais qu'on développe davantage. Si vous êtes d'accord, c'est encore une fois celle de la souveraineté de Dieu dans cet événement-là. Avec ce que ça implique. De dire, écoutez, Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou est-ce que ça ne l'est pas, ce qui est arrivé? On dit, Dieu est capable de tout, Dieu est tout puissant, Dieu est bon, alors il aurait pu l'empêcher, Dieu ne l'a pas empêché, comment est-ce qu'on s'explique ça? Et j'aimerais lire un paragraphe qu'on retrouve dans la confession de foi dite de 1689, la confession de foi de votre assemblée et de la mienne, qui il y a un chapitre donc qui nous parle des décrets de Dieu, qui aborde toute la question de la souveraineté de Dieu et comment le Dieu Tout-Puissant a interagi avec avec l'histoire humaine. Et donc le premier paragraphe de ce chapitre nous dit ceci. De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa sainte volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive, de telle manière cependant qu'il n'est pas l'auteur du péché et n'a aucune communion avec le pécheur, sans faire violence à la volonté de sa créature et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui librement dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. Alors ça a été écrit par des théologiens au XVIIe siècle, réunis en assemblée pendant plusieurs rencontres. Ça a duré quelques années à Westminster, en Angleterre. Et donc, ils ont réfléchi à la question de l'agissement de Dieu dans l'histoire humaine. Et ils ont résumé dans ce paragraphe, donc c'est des mots un peu techniques, un vocabulaire là, théologique, je suis pas certain si tout le monde a compris, il faudrait le relire lentement et chacun prendre le temps de le méditer, mais j'aimerais, Pasteur Pelletier, qu'on discute de ça, que vous nous expliquiez peut-être en langage plus accessible ce que ça veut dire, que Dieu a décrété en lui-même tout ce qui arrive, mais de telle manière à ce qu'il n'est pas l'auteur du péché et qu'il ne fait pas violence à la volonté de sa créature. Comment est-ce que Dieu peut décréter qu'une chose va arriver et que la chose arrive sans que sans que Dieu n'ait fait violence à notre volonté?
Vous me demandez, Pascal, d'expliquer un texte écrit par des théologiens aguerris.
Oui, je pense que vous en êtes un également.
Écoutez, on est d'accord pour dire que c'est un peu difficile à expliquer dans un sens, mais ce texte souligne le fait que Dieu est parfaitement souverain. Et que donc, et que Dieu est infiniment juste et bon. Et que donc, Dieu ne peut d'aucune manière ni pécher, ni être l'auteur d'aucun péché. OK? Mmh. Sauf que, on a souvent et je pense que effectivement, Pasteur Pascal, vous avez raison, dans les circonstances, c'est important de souligner, on a souvent cette idée, hein, qu'il y a de toute éternité le mal et le bien, comme si les deux étaient égaux. Mmh. Ce texte-là est en train de nous dire qu'il y a une réalité suprême plus grande que l'autre, hein, qui a fait que Dieu est au-dessus même du péché et du mal, parce que avant que le péché entre dans l'univers, il y avait Dieu. De là la question de Saint Augustin, à savoir d'où vient le mal, Seigneur, puisque il n'y a aucun mal en toi et que tu as créé ce monde et que ce monde ne peut d'aucune manière, comment est-ce que le mal a pu pénétrer dans ce monde qui est créé par toi, qui est un Dieu infiniment bon. Ce texte-là nous dit que Dieu est infiniment bon, juste et saint. OK, et que non seulement il ne peut être tenté par le mal, mais il ne peut d'aucune manière être vaincu par le mal. Et donc, que même le fait qu'il a décrété et permis l'entrée du mal dans le monde, on parle du mal moral, mais aussi avec toutes les conséquences que cela amène.
Mais vous l'affirmez là d'emblée, Dieu a décrété l'entrée du mal dans le monde.
Oui, mais je voudrais pas trop rentrer là-dedans pour l'instant, je veux juste dire parce qu'on est d'accord que Dieu est souverain, mais Dieu n'est pas vaincu par le mal. En fait, Dieu manifeste présentement, il va le manifester au retour de son Fils de manière encore plus glorieuse. Il l'a manifesté par la croix de Jésus-Christ, hein, qui bien sûr a été livré par les méchancetés des hommes, a été jugé de façon injuste, a été mis à mort, mais ressuscitant les morts, est devenu le sauveur d'une multitude d'hommes et de femmes. Alors Dieu a changé le mal en bien, c'est ça. Ce que la confession de foi nous dit, ce que ces théologiens-là ont voulu affirmer, c'est que Dieu possède toute suprématie sur le mal et que le mal ne peut d'aucune manière être victorieux sur Dieu, mais que le contraire est vrai cependant. Dieu va vaincre toute forme de mal dans l'univers. Et Dieu, à travers les circonstances, justement, qu'il a permises, nous interpelle sur la réalité du mal présent. Mais l'Évangile, c'est que en Jésus-Christ, justement, le mal a été vaincu sous toutes ses formes, même s'il est encore présent. Et l'apôtre Jean nous dit que Jésus, le Fils de Dieu, a paru afin de détruire toutes les œuvres du diable. Le diable qui a fait entrer le péché dans le monde, qu'on le veut ou non, je sais, même si beaucoup de gens nient la réalité de l'existence du diable, je pense que notre univers, le monde tel qu'on le connaît, nous démontre qu'il y a quelque chose d'extrêmement mauvais hein, dans le siècle présent. Mais le Fils a paru afin de détruire toutes les œuvres du diable. Dieu ne peut être vaincu par le mal, mais le mal est vaincu et sera parfaitement vaincu par Dieu en la personne de son Fils glorieux, par sa puissance glorieuse. Et donc, nous sommes interpellés à travers toutes ces circonstances présentes, justement à nous tourner vers le Dieu de la parole, qui seul peut vaincre le mal en nous et autour de nous, et nous assurer un avenir radieux, c'est-à-dire bien sûr son salut hein, et de vivre avec lui éternellement et avec son Fils. Mais pour cela, il faut justement reconnaître que nous sommes pécheurs, vous l'avez déjà dit, Pasteur Pascal, que nous avons besoin de ce Dieu-là, que lui seul peut nous sauver, et que ce n'est qu'avec lui et avec son Fils que l'on peut nous-mêmes devenir vainqueurs sur le mal présent qui se présente sous les formes les plus inimaginables et les plus hideuses, justement, mais qu'en Christ, nous pouvons vaincre cela par sa grâce.
Amen. Amen. Il y a un point également dans le paragraphe que j'ai lu de la confession de foi. Lorsqu'il dit que Dieu décrète tout ce qui arrive, hein, les événements qui ont cours, qu'ils soient heureux ou malheureux, sans pour autant que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. C'est une phrase un peu complexe, mais qui veut simplement dire que Dieu décrète la fin, Dieu détermine qu'une chose va arriver, mais il décrète qu'elle va arriver librement, naturellement, et que les hommes vont en être responsables et les auteurs. Et un des meilleurs exemples qu'on a, c'est dans la mort du Christ, la prédication de l'apôtre Pierre à la Pentecôte, il dit « Cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu. » Alors, il dit « Christ a été livré, et c'était selon le décret divin, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir hein, par la main des impies. » Et dans l'apôtre Pierre dit « C'était le décret divin que son fils soit livré à la mort. » mais vous êtes responsable de l'avoir livré, repentez-vous de cela. Autrement dit, ce que Dieu décrète n'empêche pas la responsabilité humaine et la cause première, qui est toujours le décret divin, n'est pas la cause coupable qui porte la responsabilité lorsqu'il y a un péché en ligne de compte et n'exclut pas la cause seconde, mais lui donne un fondement. Il y a une illustration comme ça, je ne sais plus qui est le théologien qui l'a donné en premier, mais je l'ai lu à différents endroits, là, chez C.S. Lewis, chez John Frame, qui dit qui a tué Roméo? Est-ce que c'est Shakespeare ou est-ce que c'est lui-même? Hein, Shakespeare a décrété la mort de Roméo, il l'a écrit, mais dans le monde de Roméo, il s'enlève volontairement, délibérément, la vie, il est responsable de sa propre mort. Alors, c'est une illustration ou une analogie qui est imparfaite, bien sûr, mais qui communique un point, c'est que Dieu peut décréter une chose sans être l'auteur du mal. Et donc, si on en vient à la tragédie de Newtown, et ce qu'on nous pose là, franchement la question, est-ce que c'était dans le plan de Dieu. Ben, ça n'a pas échappé au plan de Dieu. Ça n'a pas échappé au décret. Oui, ça fait partie de l'histoire qui fait partie du plan de Dieu et Dieu va faire arriver toutes sortes de choses, même du bien au travers de cela. Est-ce que c'était contre la volonté de Dieu que ces gens périssent? C'était tout à fait contre ce que Dieu nous révèle être sa volonté. Dieu n'aime pas le meurtre. Dieu ne prend pas plaisir. Dieu désapprouve et l'homme qui en est l'auteur va être responsable devant Dieu, même si Dieu a décrété qu'une telle chose allait arriver. Moi, c'est ma compréhension des choses. Je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est la lecture que l'Écriture fait des événements qui ont cours dans notre monde.
Ben, écoutez, je suis d'accord. Joseph, dans l'Ancien Testament, dit à ses frères qu'ils l'ont vendu injustement, qu'ils l'ont fait souffrir. Vous avez planifié de faire le mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. Je pense qu'on peut terminer ici en disant que, bien sûr, la providence qu'on appelle, hein, la providence divine, a ses aspects extrêmement mystérieux. incompréhensible parce que Dieu est Dieu. Mais Dieu n'est pas l'auteur du mal moral. Dieu n'est pas l'auteur du crime, de l'injustice, d'aucune manière. Mais Dieu règne suprêmement sur le mal. Et encore une fois, les événements comme ceux qui se sont passés dernièrement, extrêmement tristes, qui bouleversent nos cœurs, bien sûr, sont certainement un appel de la part de Dieu à se tourner vers lui, le Dieu de toute consolation, le Dieu qui peut prendre nos vies, nos circonstances les plus pénibles, hein, quelle que soit la forme de mal qui nous a touché, la plus hideuse qui soit, Dieu, par son Fils bien-aimé, et grâce à ce que le Fils a accompli en faveur des pécheurs que nous sommes, Dieu peut transformer le mal en bien. Dieu a vaincu le mal de manière toute particulière en son Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui a paru pour sauver tous ceux qui croient en lui. Et je pense qu'on peut terminer là-dessus, Pasteur Pascal, en disant que nous invitons tous ceux qui nous écoutent, hein, qui ne connaissent pas le Dieu de l'Évangile, à lire cet Évangile-là et à surtout à le chercher de tout leur cœur, parce que Dieu a dit qu'il se laisserait trouver par ceux qui le cherchent sincèrement. Dieu est proche. Il est très, très proche. Il parle par les circonstances de nos vies et il nous appelle à se tourner vers lui. Il a la puissance de transformer nos vies, nos situations, et de faire de nos vies, de certaines de nos vies qui sont des échecs même, de faire désormais une vie pleine de fruits, hein, à la louange de sa gloire.
J'allais dire, Pasteur Jacques, vers qui d'autre irions-nous?
Effectivement, et pour ajouter, tu as les paroles de la vie éternelle en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, on va terminer ici. C'est un sujet extrêmement difficile sur bien des points, mais j'espère que nous avons pu amener certains de nos auditeurs, de nos auditrices à une réflexion plus profonde, hein, sur le grand mystère de la foi, sur le mystère de la vie aussi, et à interpeller votre esprit, votre cœur, à rechercher le Dieu de la Bible, hein, le Dieu des Écritures, pour trouver les réponses les plus importantes à notre existence et surtout où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Bien sûr, il veut qu'on se tourne vers lui et qu'on croit en son Fils bien-aimé. Donc, on termine ici. Je ne peux que souhaiter la grâce de Dieu à chacun de ceux qui étaient avec nous lors de ces dernières minutes et demander au Seigneur de vous bénir abondamment, de vous diriger en toutes choses, vous éclairer votre cœur, votre âme, et puis on se donne un prochain rendez-vous justement pour une autre émission de Parole à propos sur les foi, sur les ondes de ces foi FM. Et encore une fois, merci beaucoup, Pasteur Pascal, de votre intervention.
Merci, c'était un plaisir.
Et ça sera un plaisir de nous rencontrer à nouveau, de parler sur les ondes de ces foi.